Je vous propose, dans la réflexion de ce matin, de répondre à deux questions. La première, c'est quel est l'état des lieux ? Qu'avons-nous appris de la situation que nous vivons, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel ? Et deuxième question, qu'est-ce que cela va changer dans ma vie ? Quelles décisions ? Nous allons prendre par la suite, à partir d'aujourd'hui. Deux textes que je voudrais lire, qui seront le fil conducteur de notre réflexion. Le premier texte se trouve dans l'épître de Pierre, chapitre 2. Je le lis, Pierre fait la comparaison entre les enfants du peuple d'Israël et nous, enfants de la nouvelle alliance qui est éternelle, signée par le sang de Jésus-Christ. Et il dira ceci, « Vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. » Bien-aimés, chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Retenez ces deux expressions, « étrangers » et voyageurs, des gens de passage sur cette terre. Et pour cela, je vous encourage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite. Je pense que j'ai oublié d'allumer mon micro. Donc, je vais le faire immédiatement. Désolé, Jean-François. Ça y est, voilà, merci. Ayez donc au milieu des païens, au milieu des nations, une conduite irréprochable, afin que là même où ils vous calomnient, si vous êtes comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les appellera, les visitera. Le deuxième texte, sachant que nous parlons d'étrangers et de voyageurs, se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, et nous disons ceci, où Paul est en train de dire, 2 Corinthiens chapitre 5, que nous sommes en Christ, nouvelle création, que toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, et il nous dit qu'à cause de cela, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et il dit ceci au verset 20, « À cause de cela, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, des étrangers sur la terre, mais ambassadeurs d'une autre patrie. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Première question, faire le bilan de la situation d'aujourd'hui, à la fois sur le plan terrestre, avec cette connotation, qu'est-ce que cela nous enseigne sur le plan de notre relation avec Dieu ? Le confinement dû au virus a commencé en Belgique le 17 mars. Et chaque semaine, nous étions, je suppose vous aussi, très nombreux à nous placer vers 14 heures à la télévision pour écouter la Première ministre, Madame Sophie Wilmès. À l'époque, dès le début, j'ai appris que j'avais besoin d'un masque pour filtrer l'air que je respirais. Et pour rappel, une des prédications qui a été donnée, c'était « Quel air je respire ?» et en parlant de mon âme. J'ai appris à ce sujet que je devais régulièrement me laver les mains. Et cela aussi est une exhortation de l'apôtre en disant, lorsque nous prions, que nous élevions nos mains pures. Qu'il fallait utiliser un flacon de gel hydroalcoolique pour purifier nos mains. Et nous savons que ce n'est pas par du gel que nos âmes ont été lavées ou purifiées, mais c'est par quelque chose de beaucoup plus puissant, qui est le sang de Jésus-Christ. Je me suis rendu compte aussi par notre première ministre que certains gestes m'étaient interdits. Et c'était une torture pour moi. Moi qui ai l'habitude de me gratter, avec ses doigts, il était interdit dès lors de les porter dans ma bouche. Il y avait donc une nouvelle méthode, une nouvelle norme de vie à adopter, telle que quand on devient chrétien, on change de régime, on n'est plus esclave du péché, esclave de Satan, mais il y a une autre vie, celle de Christ qui doit régner en nous. J'ai appris par après qu'il y avait des règles sociales qu'il fallait respecter. Et au début, c'était light, mais ensuite, le ton s'est durci. Il fallait suivre ces règles sociales de distanciation à la lettre, au risque d'être sanctionné. Quand on ne suit pas la parole de Dieu et qu'on la laisse tomber, cette parole nous poursuit et elle nous sanctionne. Ainsi, par ces nouvelles règles, notre liberté d'action a été réduite. Interdit de se voir, interdit de se déplacer, interdit de voir nos proches, interdit de se réunir. Le COVID-19 avait gagné du terrain. Comme pour les hommes du péché, le péché a gagné du terrain. Alors que la vraie liberté se trouve en Christ. Les rues, les écoles, les usines étaient maintenant désertes. Comme on est loin de ce que Christ propose. Lui qui disait, celui qui n'est pas avec moi, c'est celui qui divise. Et le Covid a gagné. Mais grâce à Dieu, par son esprit, nous pouvons vivre l'unité comme nous l'avons chanté. À l'opposé de ce manque de liberté, moi j'ai toujours été stupéfait de voir des files énormes à l'entrée des magasins, des supermarchés, pour acheter quelques marchandises, même parfois égoïstement. Les rayons des farines étaient vides, les pâtes aussi, et puis le PQ manquait. Des foules attendent de l'ouverture des bars, des cinémas, et peu dans ce monde attendent l'ouverture de l'église. Comme c'est étonnant, ce changement de choses, d'idées, d'attitudes. En même temps, nous étions à l'écoute de ces chiffres qui s'amplifiaient chaque jour, du nombre de personnes qui étaient contaminées par le virus, le nombre de personnes qui en décédaient, qui augmentait chaque 24 heures, et nous en étions horrifiés. Est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes horrifiés face au nombre de personnes qui nous entourent et qui vont vers la mort éternelle? Chaque jour, la première ministre nous faisait prendre conscience du rôle de chacun. Alors que nous étions, nous, confinés à rester dans nos maisons, plusieurs étaient sur la brèche, les médecins, les infirmières, pour nous soigner, les pâtissiers, pour nous faire du pain, pour faire en sorte que nous soyons alimentés. Les éboueurs, pour faire en sorte que nos rues ne sentent pas mauvais. Ainsi en est-il de l'Église. Chacun a son rôle dans l'Église. Prenons-en conscience. À l'annonce de ce virus, au début, au mois de février, on sous-estimait sa gravité. On en rigolait. Oh, une simple grippe. À aucun moment, avant le 17 mars, nous n'avions envisager une situation aussi catastrophique que celle que nous vivons, celle que le virus allait engendrer. Pouvons-nous imaginer la catastrophe que le virus péché a engendrée dans le monde et qui va entraîner une catastrophe éternelle? Il a fallu rester chez soi pendant 3 mois et peut-être plus, à travailler dans son appartement ou dans sa maison, pour certains à être au chômage. 3 mois sans voir les amis, sans voir la famille, sinon que grâce à la technologie, nous avons pu communiquer avec nos proches durant ces 3 mois de confinement, mais même si les voir au travers d'un écran, d'une caméra ou par téléphone était bien, mais c'était rien. Il y avait un manque, un vide. Jamais le face-à-face n'a été remplacé par cette nouvelle technologie. Et en étant privé de liberté, privé de se voir, de voir ceux que nous aimons, une chose que j'ai appris, j'ai pris conscience à quel point mes amis, vous étiez importants pour moi. J'ai appris combien vous nous manquez. Ainsi, le confinement m'a révélé tout ce qu'il y a de mauvais dans le péché. Il m'a appris que je ne suis qu'un pèlerin, qu'un voyageur sur cette terre, et que bientôt je devrais déposer les armes, sauf si le Seigneur Jésus venait. J'ai appris à quitter le rôle de consommateur dans l'Église pour être serviteur du grand serviteur avec les capacités que le Seigneur donne en vue de l'édification de son corps qui est l'Église. J'ai appris comment montrer Christ et être mis en marche par lui. Mais en marche vers où ? Vers quelle destination, puisque je ne suis que pèlerin ici-bas. Pour ce qui est de la terre, soulignons encore, et voici à peine quelques jours, que les frontières se sont ouvertes. Pas partout, mais elles se sont ouvertes. Et vite, les agences de voyage se sont remplies. On a besoin de voyages, de découvrir. Et aujourd'hui, en restant responsable des consignes que la Première ministre nous a données, nous pouvons nous rassembler à quelques-uns et par la caméra en saluer ceux qui nous rejoignent en différé. Bien sûr, on voudrait plus. On voudrait la grosse accolade, on voudrait se saluer, s'éteindre. Mais voilà, il faut patienter, car le Covid est encore présent. Si pour plusieurs nous sommes dans la maison de Dieu ici, la maison de prière ici à Glun, nous pensons à nos bien-aimés qui sont, à cause de la situation d'aujourd'hui, restés chez eux et que nous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Voilà l'état des lieux, on pourrait en allonger. Deuxième question. Quel aspect pratique pour moi, pour ma foi, quel engagement, quelle résolution je vais prendre suite à cet état de lieu que nous venons d'énoncer et qui va modifier ma vie. Rappelons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la communion avec Dieu et dans la communion avec nos frères et sœurs, dans un amour sincère. Et à révéler cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par son esprit. À porter le fruit que doit produire le Saint-Esprit dans nos vies. À prendre conscience que notre parcours sur la terre est limité. Et que, étant pèlerins et voyageurs étrangers, nous avons un rôle d'ambassadeur à jouer sur cette terre. Et cela est répété, bien sûr, dans les textes que nous avons lus au début de cette rencontre, mais cela est aussi dit dans l'évangile de Jean, dans la prière sacerdotale du Seigneur Jésus, alors qu'il se retrouvait là aussi confiné avec ses disciples dans la chambre haute, au moment où il allait instituer sa la Sainte Cène. Voilà, il prie pour les disciples et ceux qui viendront à la connaissance de sa grâce au travers de la prédication de la croix. Voilà comment il s'adresse à son Père. « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal, de les préserver du méchant, de les préserver des désastres du Covid-péché. Je te les prie de cela. » Ils ne sont pas du monde, comme moi, Père, je ne suis pas du monde, dit Jésus. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Moi aussi, je veux qu'ils soient des ambassadeurs de royaume dans ce monde. Ainsi, depuis le jour où nous avons répondu à l'appel du Seigneur Jésus, nous sommes nés d'en haut, nous avons changé de patrie. Notre patrie, bien que foulant ici avec nos pieds le sol de cette terre, notre patrie n'est pas ici-bas. Notre patrie, elle est céleste, elle est d'en haut, elle est dans les cieux. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, là où il est en train de nous préparer une place, là où nous allons vivre pour toute l'éternité. Nous sommes appelés à montrer que nous sommes des pèlerins, des étrangers, et appelés à exercer le ministère d'ambassadeur sur cette terre en reflétant les caractères du royaume de Dieu, de la patrie d'en haut. Le chrétien est donc un voyageur, est-ce que vous en êtes conscient? Mis en route par Dieu lui-même dans ce monde, en route vers la patrie, vers le ciel, vers la maison du Père, vers la Jérusalem céleste. Un autre mot qui nous parle de l'Église dans le ciel. Bien sûr, la route n'est pas toujours facile. La route est caillouteuse, parsemée de difficultés, de virus de tout genre. Mais c'est dans ce monde qui est du verbe haïr, qui est le prince de la paix, que nous sommes invités à être ambassadeurs. Et que nous allons rencontrer les mêmes adversités que le Seigneur Jésus a rencontrées. Il nous informe, Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en vous. » Des tribulations, vous allez en avoir. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Le monde avec ses péchés, le monde avec son prince, avec son esprit. Il nous redit notre destination. Je vais vous préparer une place. Et il nous assure que dans ce chemin, la victoire, elle est certaine. Il y a une fin glorieuse pour les enfants de Dieu. Et cette fin, elle est éternelle. Et dans cette fin, il n'y a plus de virus pour nos âmes. Plus de péché, plus de mort, plus de larmes. Tout cela sera absent. Il nous donne sa parole comme feuille de route. Et je vous invite, pendant quelques minutes, à ouvrir cette feuille de route. Et j'espère, puisque ce sera très court, le temps avance, j'espère que j'aurai suscité la curiosité d'aller fouiller cette feuille de route que l'on retrouve, bien sûr, dans la parole de Dieu, mais je vais simplement ouvrir quelques textes de cette parole. Nous avons l'habitude de considérer les psaumes indépendamment les uns des autres, chacun exprimant des émotions que que les auteurs ont pu vivre dans leur vie. Et pourtant, cette pensée est bousculée lorsque je constate que certains psaumes sont liés entre eux. Ils se suivent. Ils commencent tous par un même mot. Je ne vais pas le dire en hébreu parce que ça ne servira à rien, et puis c'est difficile à prononcer. Mais si je traduis ce mot hébreu en français, il est traduit de différentes manières. Cantique ou psaume, des montées, psaume des degrés, psaume des étapes, psaume où l'âme s'élève, ce qui va vers le haut, ce qui édifie, qui élève. C'est donc des psaumes pour la route et pour le pèlerinage, pour le pèlerin que je suis. Un psaume qui pour le peuple d'Israël, des psaumes qui pour le peuple d'Israël étaient chantés lorsqu'ils se dirigeaient vers Jérusalem, là où se trouvait le temple. Ces psaumes vont certainement nous encourager, nous qui sommes en marche vers la patrie céleste, vers la Jérusalem d'en haut, vers le rassemblement de l'Assemblée dans le ciel. Ces psaumes, faciles à retenir, ils sont au nombre de 15. Et ils commencent à partir du chapitre 120, c'est-à-dire juste après le psaume 119, qui est le psaume le plus long. Ainsi, des références pour aller les chercher. Dans ce psaume 119, c'est l'éloge de la parole de Dieu, qui est riche pour nous. Et voilà qu'après ce psaume 119, qui fait l'éloge de la parole de Dieu, commence 15 psaumes, 15 cantiques pour le pèlerinage. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas les étudier les 15. Hein. Peut-être qu'on pourrait y revenir un jour, mais j'espère que vous aurez la curiosité d'aller les lire et vérifier qu'ils commencent tous par cantique ou psaume des degrés, psaume pour la marche, psaume pour le pèlerinage. Les trois premiers que l'on peut regrouper, c'est le psaume 120 au psaume 122. Le psaume 120, je lis la première phrase. Chant des montées dans ma Bible. Une autre Bible, chant des degrés, cantique de la montée. Voilà ce qu'il est dit. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Quand je lis cela au début d'un pèlerinage, je me dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à me proposer que de me rappeler que mon chemin sera difficile ? Dans mon pèlerinage ici-bas. On aurait souhaité que le premier cantique soit un cantique de joie, d'exaltation. Mais non. Le Seigneur prévoit que nous aurons des tribulations et dès lors, il nous rassure que nous pouvons crier à l'Éternel et qu'il y aura toujours du secours au moment opportun. Le chemin du pèlerinage ici-bas vers la maison céleste est donc un chemin difficile pour le pèlerin, avec l'assurance de la délivrance, d'être entendu. Premier verset du chapitre 121. Chant des degrés, cantique des psaumes, cantique des montées pour le pèlerinage. Voilà comment le psalmiste dit. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le fidèle qui est en chemin lève les yeux vers ce qui est en train de l'écraser, vers les difficultés engendrées par le Covid-19, par le péché, par son cortège de souffrance et de mort. Et il s'écrit, mais d'où me viendra le secours ? Et si on avait l'occasion de lire, je vous encourage à lire ce psaume, la réponse Elle est pleine d'assurance, pleine de certitude. Je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Allez, super. Celui qui te garde, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Y a-t-il meilleure assurance d'être gardé par quelqu'un qui jamais sera absent de notre vie, de nos circonstances? Puis arrive le psaume 122 que nous allons lire entièrement, puisque c'est un psaume qui s'adresse pour cette journée. Le psaume 122 est un psaume de réjouissance. C'est un psaume qui commence aussi par cantique ou psaume des degrés, psaume de la montée, voilà, du parcours, psaume des pèlerins. Et je le lis. C'est un psaume de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » Arrêtons là la première, notre lecture. Verset 1. Quelle exclamation! Je suis dans la joie. Et moi, si j'avais été là, j'aurais épié le regard ou les visages. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont dans la joie avec un visage tiré par terre. Mais quand on est dans la joie, misère, mais on est dans la joie, ça se voit, ça se dit, ça se communique. Et ici, on a l'impression que David, il est dans la joie et que ça se communique aux autres. Voilà, c'est la vie qui est présente. La maison de l'Éternel, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». La maison de l'Éternel, dans la parole de Dieu, c'est là où le Seigneur, l'Éternel, manifeste sa présence. Là où l'on peut vivre la communion avec lui et entre frères et sœurs. Là où on peut l'écouter, là où on peut lui parler. Il est évident que la maison de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le tabernacle. Puis ce fut le temple, le lieu de sa présence. Pour nous, enfants de Dieu de la Nouvelle Alliance, on pourrait dire, comme on l'a signalé tout au long de notre culte, c'est là où le Seigneur a promis sa présence. D'une part, il a promis sa présence en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est là où nous pouvons nous retirer dans notre chambre, fermer la porte, et où là, le Père nous entend. Mais c'est là aussi, quand nous sommes rassemblés autour du Seigneur Jésus, il a promis sa présence. Alors, quand je lis cela et que je sors du confinement, est-ce que je ressens en moi ce vide du rassemblement? Au point que, au début de la journée, quand je me suis levé, j'ai sauté. Ah, Seigneur! Je vais à ta maison, je vais voir des frères et sœurs, je suis content. Je suis content de les voir, Seigneur, ils me manquent tellement. Je sais bien que je ne pourrai pas les embrasser, mais Seigneur, le regard fera l'affaire. On va se regarder, on va sourire, on va montrer qu'on est heureux, exprimer notre joie. Avez-vous remarqué, dans ce premier verset, qui est l'auteur de cette joie? C'est pas le peuple. C'est le roi lui-même. C'est David. Je relis ce premier verset. Je suis, c'est David qui parle, je suis dans la joie. Et j'extrapole en disant, quand j'entends le peuple dire, allons à la maison de l'Éternel. C'est le roi David qui est dans la joie. Mais alors, bien-aimés, pouvons-nous imaginer la joie du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Seigneur Jésus, lorsqu'il voit les enfants de Dieu animés d'un tel zèle, d'une telle joie? Ah, on va aller se retrouver dans la maison de Dieu, là-bas à Glun, on va se revoir. Et la joie du Seigneur Jésus, de voir cet élan de cœur, se communique à chacun de nous. Elle est communicative chez nous. Les pèlerins que nous sommes, nous nous encourageons mutuellement. Et en méditant cela, j'essaie d'imaginer le peuple d'Israël en route, venant des quatre coins du pays même, de la Décapole même au-delà, qui venaient à Jérusalem pour des fêtes spéciales. Et par analogie, nous pouvons imaginer ce que devrait être notre cœur, notre élan, notre joie lorsque nous allons nous rassembler en Église. S'appelle au téléphone. Adi, tu viens avec moi ? Oh non, je suis fatigué. Allez, viens ! Voilà, est-ce qu'il y a cet élan d'encouragement pour dire à ceux qui sont lassés du chemin, allez, viens, tu vas voir, ça va être un moment de joie, un moment où on va s'encourager les uns les autres. Et puis voilà qu'on passe le chercher, à pied ou en voiture, à cheval, je ne sais pas moi, on passe le chercher et on va de maison en maison. Et là, tout un cortège est en train de se dresser pour arriver jusqu'au lieu, ici à Glun. Et pendant ce déroulement, ce défilé, ce pèlerinage vers Glun, on chante des cantiques. On chante la gloire de Dieu. Et même si aujourd'hui les autorités nous en empêchent, mais le cœur est là pour déborder. Et on dit, Seigneur, Seigneur, allons-y, on est prêt. Ça nous presse. Pourquoi ? Y a-t-il cette joie ? Parce que l'enfant de Dieu sait, d'après la parole de Dieu, qu'il y a d'abondante joie auprès de l'Éternel. Parce que c'est là où deux ou trois sont assemblés à son nom. C'est là où il est doux et agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est là que se trouve la bénédiction pour l'éternité. Je suis dans la joie. Pour nous, c'est une joie par anticipation. On voudrait qu'il y ait plus de monde, que ce soit plein nouveau. Mais c'est une joie par anticipation d'un autre lieu, là où notre parcours terrestre nous amène, qui est la maison du Père. Je voudrais faire une deuxième remarque. Savez-vous que David, ici, pour moi, il n'a pas vu le temple. L'Éternel lui a dit, rassemble les éléments de la construction et puis c'est ton fils qui va construire le temple. Comment se fait-il vraiment une anticipation? C'est la foi qui anime ce peuple à aller. Et dans un sens, nous sommes dans une période du déjà et pas encore. Selon l'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens, nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà assis ensemble dans les lieux célestes, nous sommes déjà glorifiés en Christ, mais pas encore réellement. Donc notre cœur est affectionné aux choses d'en haut. Nous nous sommes déjà approchés de la montagne de Sion, dit l'épître aux Hébreux, de la cité du Dieu vivant. Et il ajoute, nous nous sommes approchés de la cité de la Jérusalem céleste. On y est déjà par la foi, mais pas encore. Et puis le verset 2, nous dit ceci. Ça y est, nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Ouf, ça y est, le pèlerinage est arrêté. On y est. Nous avons réussi le voyage. Nous venons partout et nous rappelons que dans le ciel, il y en aura de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation qui seront là, assemblés dans le ciel même. Et je voudrais lire avec vous les versets 6 à 9 de ce psaume 122. David, comme le Seigneur Jésus, le roi des rois, nous invite à prier. Verset 6. demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs, Église de Glun. Je désire la paix dans ton sein. Et la demande de prière n'est pas pour sa gloriole à lui, David, mais pour une cause beaucoup plus noble qu'une autorité que le Seigneur Jésus pourrait prendre. Écoutez pourquoi il demande la paix. Que la paix soit dans tes murs, verset 8, à cause de mes frères, de mes amis. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et à cause de nous, il demande que l'on prie pour la paix dans l'Église. À cause de la maison, et au verset, je désire la paix, à cause de la maison d'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Qu'est-ce que le Covid m'a renseigné? Christ a la même pensée. Il désire que nous prions pour la paix de l'Église, pour sa tranquillité. Alors j'ai noté ici quelques sujets de prière. Prions pour la paix entre nous. Prions pour qu'aucune division n'existe après ce Covid. Prions pour que Dieu vienne par son esprit et sa parole ôter tous les fois qui peuvent exister entre nous. Toutes les jalousies, tous les conflits, toutes les amertumes que le diable aurait pu semer. Prions pour que nous puissions vivre un amour sans aucune ombre. Prions pour que notre Dieu nous protège de l'ennemi nos âmes et nous protège du mal. Prions pour l'unité de l'Église. Demandons au Seigneur qu'il donne à l'Église d'être une ambassade du royaume céleste et que chaque chrétien qui en fait partie deviennent ambassadeurs du ciel et de son caractère. Prions aussi pour ceux qui sont à l'avant de la bataille, pour ceux qui ont quitté père-mère et qui sont partis dans des pays qui sont hostiles à l'Évangile. Eux aussi font partie de l'Église universelle. Prions pour qu'ils vivent en paix au milieu de ceux qui leur font du mal. Aujourd'hui, ce cantique des montées nous a aidés à réfléchir sur l'après-Covid, pour que nous puissions prier et chanter d'un même cœur sur la route vers le ciel. Qu'adviendra-t-il quand nous serons dans la Jérusalem céleste? Aurons-nous encore besoin de prier pour la paix? Oh non, elle sera parfaite. Par contre, une chose que nous commençons déjà ici-bas et qui sera prolongée là-bas, là-haut, c'est un cantique nouveau. Un cantique à la gloire de celui qui nous a tant aimés. Quand nous mettrons les pieds de manière réelle dans cette Jérusalem céleste, nous n'aurons plus besoin de prier parce que l'ennemi de l'Église aura disparu. tous les conflits qui peuvent naître dans l'Église seront disparus. Alors, de manière parfaite, nous pourrons entonner le cantique. Allons à la maison de l'Éternel, on y est. Et alors, nous vivrons parfaitement le psaume 133 et nous avons lu, ah, qu'il est doux et qu'il est agréable pour que des frères et des sœurs habitent unis dans l'harmonie parfaite autour du Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 21, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône de Dieu une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Nous serons bien-aimés, enfin arrivés. Le pèlerinage sera terminé. Alors le vœu de mon cœur est que j'ai essayé de susciter en vous cette curiosité de relire tout ce chemin proposé dans les psaumes de 120 à 134, psaume des montées, qui va nous donner l'orientation de notre destinée et certainement un encouragement pour nous dans le chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole.